Merci Anne Fauquemberg. On vous retrouve à 9h pour le journal. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Les attentats de Bruxelles le montrent une nouvelle fois. Comment remplir notre mission d'information, nous journalistes, en évitant les pièges de la précipitation, des réseaux sociaux, des phénomènes d'entraînement ou de concurrence entre médias, ou encore la diffusion d'images ou de photos. Nous devons remplir notre rôle de journaliste, mais nous sommes aussi responsables. Jusqu'à quel point, par exemple, pouvons-nous ou devons-nous retenir une information ? Le débat sur le traitement médiatique des attentats refait surface, nous dit Le Monde, en parlant des ratés des médias. Quel traitement médiatique des attentats de Bruxelles ? On en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités. Françoise Barré en duplex de Bruxelles, rédactrice en chef de la cellule Société de la RTBF. Guillaume Goubert, directeur du journal La Croix. Alexandre Iffy, vous êtes directeur adjoint de la rédaction d'ITélé. Alexis Delcambre, journaliste média au Monde. En cours d'émission, nous serons en ligne avec François Jost, analyste des médias et qui a passé une grande partie de la semaine devant la télévision. Notre regard extérieur aujourd'hui, Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Le clin d'œil de la semaine, Yacine Bouzard. Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard avec aux manettes aujourd'hui Alexandre Dang. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Une explosion, on a eu un gros flash de lumière et...
RTL Info a mobilisé toutes ses équipes pour vous informer au mieux sur ces événements tragiques qui endeuillent notre pays.
On commence tout de suite cette édition spéciale avec vous, Sophie Delcourt.
Imagine ici en direct de cet aéroport qui est en train d'être évacué.
Des images dures, prenez garde, elles peuvent bien sûr heurter les sensibilités, mais elles sont un témoignage de première main sur cet attentat.
Nous sommes aussi des sujets actifs, critiques, et donc qui s'adressent aux médias à leur tour, pour dire arrêtez de gérer le traumatisme de façon traumatique, qui est une façon de traiter sous le mode du choc ce qui est déjà un choc.
Le secret des sources.
Voilà comment trouver la juste mesure, ne pas en rajouter, c'est effectivement une question importante, comme le souligne la philosophe Marie-Josée Monzin, que l'on vient d'entendre dans ce montage. Françoise Barré de la RTBF, vous êtes donc rendue immédiatement à l'aéroport mardi dernier, dès que vous avez eu connaissance des explosions.
Oui, tout à fait. À 8h10, j'ai quitté la rédaction de la RTBF, direction l'aéroport qui n'est pas très loin d'ici, et puis... Quand on entend à l'habitude une explosion, ça peut être une explosion de gaz dans une maison, mais quand on entend à cette période-ci une explosion à l'aéroport, directement, le lien, on le fait avec un attentat, avec sans doute les affaires qui nous occupent depuis quelques mois ici à Bruxelles. Et puis, donc, on s'en va très très vite, on arrive, mais tout l'espace est déjà bouclé, la police a fermé tous les accès. Il est impossible d'entrer, d'approcher en tout cas l'aéroport. On voit une énorme colonne de fumée et puis on connaît les lieux puisque c'est chez nous. On va par les petites routes et on arrive dans le village de Zaventem et on part à pied puisque la police nous empêche d'avancer avec le véhicule. Et là, on croise les premiers blessés qui ont quitté eux-mêmes de leur propre initiative l'aéroport et la colonne commence petit à petit, plus on avance, plus la colonne, évidemment, de personnes qui tirent leurs valises, s'enfuit de l'aéroport. Les gens sont hagards, sont perdus. Et puis, c'est le premier choc pour nous, parce qu'il faut aller chercher des témoignages. Et à ce moment-là, on se sent incongru d'approcher ces gens qui sont perdus, puisqu'il n'y a personne qui les encadre. Et ils sont là avec leurs valises, ils viennent de vivre l'horreur pour les bribes que l'on peut recueillir évidemment de leurs propos. Et on se retrouve là et puis arrive dans les trois quarts d'heure, les télévisions, les caméramans, le monde entier arrive. Nous allons donc raconter ce qui s'est passé à Zaventem uniquement au travers du récit des rescapés et des blessés légers qui nous arrivent et du personnel qui s'est enfui de l'aéroport.
Alors vous êtes confronté à ces images, à cette colonne, vous nous décrivez hein, de personnes qui fuient l'aéroport, de survivants, de personnes blessées, Françoise Barré, face au choc et à l'horreur des attentats qui frappent votre pays. Comment avez-vous fait pour mettre de la distance entre ce que vous avez pu ressentir en voyant les victimes et l'atrocité de ces attaques et votre travail de journaliste? Comment on concilie les deux, Françoise Barré?
Quand on doit décrire un phénomène qui est arrivé ailleurs, par exemple, Haïti et le tremblement de terre, qui était une de mes missions, ou bien l'accident de car avec les jeunes enfants à Sierre, c'est différent parce qu'ici, nous sommes dans un contexte depuis le mois de novembre qui est extrêmement anxiogène. C'est comme si on attendait la catastrophe. Et donc, elle vient de se produire, on se dit, on l'attendait, elle est là. Ça se passe chez nous. C'est sur notre territoire et il faut donc rester extrêmement objectif et distant. Et on doit transformer l'empathie, qui serait l'empathie humaine classique vis-à-vis de ces gens que l'on rencontre, en empathie intellectuelle qui doit nous servir à traiter justement l'information. Donc, on doit gérer le choc sur le mode qui n'est pas le choc. On doit rester extrêmement distant. Et donc, ce que moi j'ai essayé de faire, c'est de rendre compte des paroles des personnes, essayer de décrire ce que je voyais. Voilà. Essayer de parler, de reconstituer les événements à l'intérieur de l'aéroport uniquement au travers du récit. Donc, c'est faire du factuel par le récit tout en abordant le plus posément et le plus humainement possible ces personnes qui sont pas là pour témoigner. C'est pas la première chose qu'elles doivent faire. Elles viennent de vivre l'horreur, elles sont à garde, elles sont blessées. Et puis au début, c'était très facile puisqu'on était seuls pratiquement sur les lieux. Et puis après, il y a la masse de télévision qui est arrivée. Et là, ça devenait difficile à gérer puisque dès qu'une personne voulait bien parler, c'était une meute qui se précipitait sur le témoin avec les caméras. Voilà, chacun fait son boulot, hein. Ce n'est pas une critique. Mais là on se demande si on va avoir le recul nécessaire pour ne pas ajouter à la souffrance une autre souffrance qui est un traitement inopportun.
Alexandre Iffy d'ITélé, les journalistes ne sont pas des monstres sans cœur. Bien sûr, vous avez supervisé pour ITélé et piloté les attentats de Charlie, les attentats du 13 novembre et les attentats de Bruxelles. C'est compliqué, on le sait, pour un journaliste à ce moment-là, quand c'est à chaud d'aller recueillir des témoignages. Vous basculez en spécial à quel moment, mardi dernier?
Ma position aujourd'hui, elle est celle de quelqu'un quand même qui vit les événements à distance. Je suis dans un bureau, je ne suis pas sur le terrain. Je l'ai été dans le sens où je suis caméraman de premier travail. Donc je pense aussi que quand vous êtes journaliste, en tout cas parfois quand vous l'êtes dans les médias, et il m'est arrivé d'aller sur des zones de conflit, vous avez l'œilleton de la caméra. Je pense qu'il y a un moment où vous abordez votre métier et les événements d'une manière en fait qui est de faire votre métier, d'être un témoin. Moi, j'en viens vraiment à l'essence du métier. Il y a des gens qui ne sont pas sur place et qui veulent savoir à travers ou le regard des journalistes ou le regard d'une chaîne ce qu'il se passe. Il s'avère que dans une chaîne comme ITélé, c'est en temps réel, ce qui est nouveau, ce qui arrive et ce qui en effet peut-être change les habitudes, mais en tout cas le monde est ainsi. Dans notre cas, en fait, quand on apprend que des explosions ont lieu à l'aéroport de Bruxelles, je pense qu'on, nous, en tout cas, dans la rédaction, on est informé vers 8h15 par un journaliste de la matinale qui se rend compte, je ne sais pas de quelle manière, il nous prévient. Et notre premier réflexe, on va d'abord essayer de voir si c'est vrai. On alerte, on a une correspondante sur place, on a des équipes sur place depuis l'arrestation d'Abdeslam, donc on les alerte, en l'occurrence deux équipes qu'on déplace vers l'aéroport, qui eux-mêmes nous relaient. On comprend de toutes les façons qu'à un moment, il y a deux explosions à l'aéroport de Bruxelles qui, au vu des témoignages sur les réseaux sociaux, et là aussi on a un service digital qui est habitué à nous dire si ces images, en tout cas de témoins qui arrivent, sont vraies ou fausses, qui s'avèrent. On voit quand même des scènes de panique, on voit des dégâts assez forts, et on comprend qu'en tout cas deux explosions ont lieu à l'aéroport de Bruxelles et qu'il faut arriver à le traiter, car il se passe quelque chose de suffisamment important pour que notre antenne change. Nous sommes dans ce qu'on appelle le direct, c'est-à-dire que nous essayons de faire vivre quelque chose en direct, mais encore une fois, la manière de penser n'est pas de se dire ah, c'est ça, c'est de se dire que se passe-t-il et que pouvons-nous raconter en temps réel. À partir du moment où il est avéré que ce sont des attaques ou des attentats, nous basculons en édition spéciale.
Guillaume Goubert, directeur de La Croix. Alors, la place que vous accordez aux attentats est moins importante que dans les autres journaux, dans les autres quotidiens. Mercredi dernier, donc le lendemain, vous y consacrez la une avec votre éditorial et puis deux doubles pages. Les autres quotidiens sont pratiquement en édition spéciale. Pourquoi ce choix ?
Parce que je pense que nous devons apprendre à vivre avec ces événements qui vont maintenant se produire de manière fréquente et que je pense que il faut pas submerger nos lecteurs d'articles. Je feuillette les confrères, je suis un peu perdu quoi dans une masse de copies considérable. Donc on a essayé ces jours-ci de faire quelque chose de très concis, de très précis, en faisant la part à différentes choses. Hein. Le lendemain, on a donné la parole à un certain nombre de personnalités belges, par exemple. Mais on estime qu'il faut se situer dans quelque chose qui est vraiment qui sera une longue période et que il est absolument indispensable de doser notre effort de façon à ne pas submerger nos lecteurs avec des informations, trop d'informations d'un coup.
Alexis Delcambre du Monde, vous nous dites que mardi dernier, la Belgique a basculé dans l'ère de l'info en continu. C'est un vrai changement.
Oui, c'est ce que j'ai compris en échangeant avec quelques confrères belges mardi soir et mercredi. C'est-à-dire que, à la différence de la France, qui compte trois chaînes d'information en continu, qui en comptera bientôt quatre avec la chaîne d'information publique annoncée pour le mois de septembre, la Belgique n'a pas de BFM ou d'ITélé. Et donc, ce qui, bien sûr, ne veut pas dire que la temporalité du direct n'y existe pas. Les médias, eux aussi, ont la capacité, la RTBF ou d'autres, de basculer, mais néanmoins, de façon structurelle, permanente, ça n'existe pas. Et donc, mardi, que ce soit les télévisions qui ont basculé en édition spéciale, comme nous l'a raconté notre confrère de la RTBF, ou les sites de journaux qui ont ouvert des lives, chaque rédaction, à sa manière, avec ses outils, a vécu toute la journée et parfois découvert cette temporalité de l'information en continu. Et c'est ce qui explique que cette journée marque une nouveauté pour la Belgique et pour les médias belges.
Une question à Françoise Barré de la RTBF. Donc, il n'y a pas de chaîne d'info en continu en Belgique. Est-ce qu'il y a un projet de faire un BFM, un ITélé ou une chaîne publique d'info?
Enfin, peut-être que les privés y pensent, mais en tout cas, chez nous, on appelle ça des spéciales. Ouais. Et donc, il y a le privé, c'est RTL, et il y a la RTBF, c'est le service public. On se met donc en mode spécial. On fait des spéciales. Ça ne veut pas dire que l'on fait de l'information en continu au sens strict, comme dans les chaînes dédiées à cette forme de journalisme. Mais sur le terrain, c'est bien ce que mes deux confrères disent, c'est un peu ce qu'on a vécu, c'est-à-dire qu'on est resté en spécial des heures durant, entrecoupées par les heures habituelles des journaux, le 13h et le 19h30, ou le 19h pour la chaîne privée concurrente RTL. Comme on dit en Belgique, on ne tient pas le crachoir continuellement. Il y a quelqu'un en plateau avec une spécialiste du judiciaire qui décrypte et qui remet en perspective les événements liés à l'enquête et puis des reporters en direct que l'on va rechercher. Donc quand moi, par exemple, j'étais à Zaventem parce qu'il manquait de gens et que voilà, j'étais là très tôt et je suis partie, hein, sinon c'est pas mon boulot tous les jours, c'est-à-dire que on venait me rechercher, c'est-à-dire que je faisais des directs toutes les 20 minutes ou toutes les 30 minutes en fonction d'éléments neufs que je pouvais donner. Donc je ne devais pas occuper l'antenne pour meubler. Voilà, c'est chaque fois un temps déterminé. Donc je comprends quand on dit qu'on commence à connaître l'information en continu, mais ce n'est pas encore tout à fait inscrit dans la culture. Ce qui nous bouleverse assez dans notre métier, c'est l'irruption véritablement des photos et des images amateurs sur les réseaux sociaux que l'on réutilise pour pouvoir écrire les sujets. Puisqu'on ne peut pas aller à l'aéroport, c'est ça qui nous bouleverse plus, nous, dans notre métier.
Alors, voilà. On va y venir dans un instant avec François Jost, justement. On va écouter un peu ce qu'on a entendu, ce qui est ressorti de tous ces attentats. Un extrait pris sur ITélé.
sur cette image, cette première image des suspects présumés, hein, soyons prudents, de trois suspects présumés dans l'aéroport peu avant la double explosion ce matin. Comment l'interpréter cette image ?
Et ce qui est ressorti, je trouve, c'est la prudence. Donc ça, c'est un extrait pris sur iTélé, un commentaire de l'image donnée par le parquet belge où on voit les trois suspects à l'époque, dont deux sont gantés, le troisième a un chapeau. Alexandre Iffy, d'iTélé, c'est la consigne que vous avez passée, on vérifie, on est prudent, on fait attention.
En fait, il y a des principes quand même qui nous guident en général et qui, dans ces moments un peu de crise... En plus, on en a vécu trois depuis janvier 2015, nous ont appris à en fait les renforcer encore plus. Il y a la fiabilité, c'est évident, mais c'est important. La fiabilité avant la rapidité, ça peut paraître bizarre sur iTélé, mais c'est quand même ça. La sécurité aussi, des personnes, des gens, et ce que j'appelle aussi la dignité. Ça vaut pour des photographies qui ont pu nous être envoyées par l'agence Reuters, qu'on décide de ne pas diffuser, ou certaines du métro, parce qu'on voit des choses qui nous semblent porter atteinte à la dignité des personnes. Ce qu'on a appris quand même au fur et à mesure, c'est qu'au final, on ne peut compter que sur nous-mêmes. J'insiste beaucoup, et on insiste beaucoup, le plus important pour nous, c'est pour ça que Bruxelles apparaît plus loin, mais sur les deux événements de Paris, c'est ce que je vais appeler la capacité de projection, c'est-à-dire que les gens de chez nous puissent nous raconter ce qu'ils voient, ce qu'ils ont récupéré comme parole. Et ça, c'est notre première source et c'est la première sur laquelle on s'appuie. Et ensuite, il y a notamment dans le service police-justice des gens qui ont d'autres sources et c'est eux qui font. Donc la prudence, elle est d'abord de s'appuyer sur ces principes-là pour pouvoir mettre une information à l'antenne. On s'est juste aperçu au fur et à mesure des événements qu'on ne pouvait réellement compter que sur nous-mêmes et pas vraiment sur les agences, pas toujours sur la parole publique. C'est un moment d'hyper-concentration dans la rédaction et c'est un moment où la rédaction compte vraiment uniquement sur elle-même.
Alors il y a deux exemples. Najim Lachraoui, annoncé par certains médias belges comme arrêté. On saura plus tard, enfin la confirmation et les vérifications sont en train de se faire, qu'il est l'un des kamikazes de l'aéroport. Najim Lachraoui, vous ne le donnez pas.
Nous ne le donnons pas.
Ni en bandeau.
Déjà, il est d'abord donné par les médias belges, mais quand je vous dis qu'à un moment donné, on ne fait confiance à personne, on ne fait pas non plus confiance aux médias belges. Il s'avère que Jean-Michel Descugis, du service police-justice, nous dit qu'une source lui dit que ce serait lui. Or, il faut deux sources, voire trois aujourd'hui, mais en tout cas, ça ne suffit pas.
En revanche, le 22 mars, il y a la photo du métro de Minsk ou de Moscou à la place du métro de Bruxelles.
Le 22 mars au matin, c'est donc une erreur. Je peux vous l'expliquer de cette manière-là. En fait, ce document apparaît assez tôt. Il est repéré par des journalistes qui travaillent à collecter, à regarder sur les réseaux sociaux. Et ça montre justement le piège des réseaux sociaux. Ils voient cette vidéo amateur. Vidéo qui est... Et ça n'excuse rien, mais où il y a écrit 22-3-2016, donc il y a une... Enfin, voilà, il y a ça. Or, quand on la voit, comme ça vient d'Internet, il n'y a pas de mise à l'antenne, parce que tout ce qui vient d'Internet, aujourd'hui, doit être vérifié, on n'en est pas capable. Nous sommes abonnés à des bourses d'échange, nous appartenons à une bourse d'échange qui s'appelle EVN.
EVN, si pour, comme toutes les télévisions. Hein.
Non, en fait, il y a des partenariats. En gros, ça nous permet de recevoir... d'échanger entre médias européens des images, des lives, etc. Typiquement, au moment des attentats de Charlie, c'est souvent l'antenne d'iTélé qui a été récupérée au nom de ces moments, parce qu'en général, quand vous n'êtes pas sur place, vous ne pouvez pas produire un live assez tôt. En l'occurrence, la télévision publique flamande nous offre en fait un live.
Ouais.
C'est d'ailleurs ce qui nous permet de mettre, nous, des images en direct de gens qui sont dans l'aéroport. Enfin, c'est la télévision publique flamande. Et sur leur live, cette télévision publique flamande, à un moment donné, diffuse cette image. Et ça a valu force de loi. Quand je vous dis qu'en fait, on est méfiant, et c'est peut-être ça qui nous a rendu méfiants, il s'avère que cette vidéo étant apparue sur la télévision publique flamande, on s'est dit qu'on pouvait la diffuser. Nous l'avons diffusée une fois. Au moment où on la diffuse une fois, une journaliste de chez nous se souvient qu'elle a utilisé cette vidéo dans un sujet qu'elle a fait il y a 4 ans. On la passe tout de suite au rouge. Ça n'excuse rien. Ça montre qu'il faut toujours tout vérifier et ne compter que sur soi-même dans ces moments-là.
Le devoir d'informer et la responsabilité éditoriale prennent une dimension particulière, bien sûr, dans un contexte d'attentat ou de terrorisme.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Avec nos invités, Françoise Barré, Alexandre Iffy, Guillaume Goubert, Alexis Delcambre, et je me tourne vers Isabelle Vermasson, historienne sociologue des médias. Alors Isabelle, est-ce que la presse a trop parlé de ces attentats et comment rendre compte d'une telle actualité sans provoquer l'effet de loupe?
L'événement monstre, c'est celui qui va s'emparer de l'espace public, qui va s'emparer des esprits et que tout le monde trouve légitime de lui donner une place tout à fait considérable. Et bien sûr, certains trouveront toujours qu'il y en a trop ou pas assez. Nous, il s'agit pour nous de voir qu'est-ce que ça veut dire trop ou pas assez. Il me semble que quand on regarde à travers les médias la France depuis quelque temps, on a un pays qui ne ressemble pas véritablement à la réalité de ce pays. Et donc l'effet de loupe, comme vous le dites, va modifier le rapport que ceux qui ne sont pas, par exemple les Américains, qui donnent des consignes pour ne plus venir en France. C'est parce que tout d'un coup, la manière dont ce pays est transcrit ne ressemble pas à ce qu'il est. Et puis il y a le problème de l'événement. Est-ce qu'un événement monstre qui se répète régulièrement tous les 6 mois et qui va peut-être se répéter ultérieurement, est un événement monstre? Est-ce qu'il n'y a pas là une situation, certains parlent de guerre, d'autres parlent d'éléments un peu incontrôlés, quelque chose qu'on ne sait pas qualifier? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut à chaque fois lui donner cette place-là ou bien considérer qu'on doit vivre avec les dangers comme, et que ça devient presque, c'est horrible à dire, mais à marronnier. En tout cas, lui faire une place à part, une place qui n'aurait pas cette impression d'invasion, de surplomb, de submersion, qui va finalement peut-être être rejetée de la part de certains individus.
Merci Isabelle, on se retrouve tout à l'heure. Nous sommes en ligne avec François Jost, analyste des médias. Bonjour François Jost.
Oui, bonjour.
Alors vous avez passé une grande partie de la semaine à regarder la télévision, j'imagine iTélé aussi, pour décrypter les images qui ont été utilisées et diffusées. Qu'avez-vous noté, François Jost, de différent cette fois-ci par rapport à la période que nous avons connue à Paris entre janvier et novembre 2015?
J'ai noté d'abord un procédé nouveau, ce qu'on appelle le split screen, c'est-à-dire la séparation de l'écran en diverses parties. Sur BFM, beaucoup, on a eu constamment un écran divisé en 4, qui évidemment renforce cette idée de direct dont on a parlé, qui est plus un effet de direct qu'un réel direct. Ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est que la télévision, finalement, accentuait cette forme, ce dispositif, alors même qu'on n'était plus en direct. C'est-à-dire, je m'explique, les images qu'on voyait donnaient des éclats de réalité, je dirais, ce qui est assez adapté à la situation, mais qui étaient d'époques très différentes. Par exemple, une vidéo de l'aéroport avec les vitres explosées, un direct sur la rue où on ne savait pas très bien ce qui se passait, des ambulances, une interview, et en fait, toutes ces images coexistent comme des images qui d'ubiquité, c'est-à-dire qu'on a l'impression de tout maîtriser, alors qu'en fait, quand on regarde de près, on s'aperçoit que c'est simplement un effet direct, mais qu'il n'y a pas de direct. Donc, finalement, du point de vue de l'intelligibilité, j'ai été un tout petit peu sur ma faim, quoi.
Alors, vous parlez d'intelligibilité dans le visible. Pour France 2, qu'est-ce que vous voulez dire ?
On a eu un travail journalistique assez différent, sans doute, parce que il y a un peu plus de recul pour le 13 heures. On a vu parfois exactement les mêmes images, mais qui étaient remises en ordre, qui étaient simplement remises en ordre chronologique, et donc on comprenait ce que ces images signifiaient par rapport aux précédentes. Au lieu d'avoir simplement une sorte de vision éclatée sur la réalité qui ne nous apprenait pas grand-chose.
Vous parlez également de la frontière qui n'existe plus vraiment, en tout cas sur les attentats de Bruxelles, entre les images amateurs et les images professionnelles. C'est vrai que les télés ont eu beaucoup recours aux images d'amateurs. Il y a une valeur informative dans ces images également.
Oui, mais je me suis posé la question en regardant ces images, parce que ce qui est assez nouveau, c'est que maintenant, elles sont sourcées. On voit l'identité du tweeto qui l'a lancé sur l'image, incrusté, ce qu'on ne voyait pas toujours auparavant. Et en regardant certaines identités, j'ai essayé d'enquêter un petit peu sur ces identités, j'ai été assez surpris de voir que finalement, l'une des images qu'on voyait le plus souvent, qui était l'image du métro, était signée d'un certain Evan Lamos, qui signait aussi Euractiv, et quand on enquêtait, on s'apercevait que en fait c'est un reporter qui fait des vidéos, se définissant lui-même comme faisant des vidéos, prenant des images, racontant des histoires, etc. Et dans un tweet par la suite, il autorisait tous les médias à reprendre ces images. Alors je me suis demandé quel était le statut de ces images, d'autant plus qu'elles ont été postées à 11h20, si vous voulez, c'est-à-dire 2 heures ou 3 heures après les attentats. C'est sans doute pas exactement des images d'animateurs. Ce qui m'a semblé nouveau, c'est cette confusion finalement entre des images de vrais amateurs et des images qui venaient finalement de professionnels.
Merci beaucoup François Jost, analyste des médias. Il y a eu une polémique qui a visé l'Obs également la semaine dernière. Le magazine a publié l'information selon laquelle la police belge avait trouvé les traces du passage de Salah Abdeslam dans un appartement perquisitionné à Forêt quelques jours auparavant, son empreinte digitale. On écoute la défense de Mathieu Croissando, le directeur de la rédaction de l'Obs.
Prétendre aujourd'hui que la divulgation de notre information aurait permis à Salah Abdeslam de réaliser que l'étau se resserrait autour de lui, c'est une vue de l'esprit. D'abord parce qu'on n'a pas parlé de l'opération en cours, hein, on n'a pas parlé de l'interpellation, on a juste mentionné dans l'article le fait que Salah Abdeslam était peut-être encore à Bruxelles. Et pourquoi on l'a fait ? Parce qu'on a considéré que c'était une information primordiale pour les Bruxellois. Il arrive parfois que la police ou que les enquêteurs nous demandent de retarder la publication d'une information parce qu'elle mettrait en cause une opération en cours. Et dans ces cas-là, on souscrit le plus souvent à cette demande. Là, ça n'a pas été le cas. Personne ne nous a demandé de retarder cette information.
Guillaume Gouvert, directeur de La Croix. Cette information, vous l'aviez ?
Non.
Vous l'auriez donnée si vous l'aviez eue ?
Non plus. Non plus, on est très très soucieux de la sécurité, on est très conscient de nos limites et donc on prend énormément de précautions pour pas créer de danger.
Alexis Delcambre du Monde, la défense de Mathieu Croissando est pertinente ?
En tout cas, quand on manie ce genre de matière, les journalistes qui travaillent sur ces questions apprennent des informations et doivent continuellement peser, balancer entre l'intérêt qu'il y a à mettre cette information sur la place publique et les éventuelles conséquences négatives que cela peut avoir, les conséquences négatives pouvant être ou bien la mise en danger de la vie de certaines personnes, là je pense pas qu'on était dans ce cas de figure, ou aussi les entraves à l'enquête policière. Ce que nous dit Mathieu Croissando, c'est que la journaliste, le journaliste qui a eu cette information, ne s'est pas vu signifier qu'il y avait un risque direct, immédiat sur les opérations en cours.
On n'a pas demandé à l'Obs de retenir l'info.
Voilà, donc si c'est ça, effectivement, on peut comprendre que l'Obs a choisi de publier cette information en se disant, après tout, Abdeslam sait qu'il est traqué, donc le fait qu'on mette ça sur la place publique ne modifie pas l'équation qu'il y a à ce moment. Il se peut que l'Obs n'ait pas eu pleinement conscience que la traque était aussi avancée que ça et que la police était vraiment sur le point de l'interpeller.
Françoise Barré de la RTBF, est-ce que la divulgation de cette information elle a précipité l'intervention rue des 80 à Molenbeek?
À propos de cette divulgation, oui. Les justifications, je les trouve un peu faibles. Nous avions l'information depuis 2-3 jours, voilà. Et ce n'est pas en termes, l'équation ne se présente pas en termes, le parquet demande qu'on retienne l'information et on ne
l'a pas. Vous aviez l'info, Françoise Barré, vous l'aviez, vous.
Bien sûr, nous l'avions, parce que nos judiciaristes ont évidemment des contacts très nourris et de bons limiers, de fins limiers, et donc on l'avait. Et ce n'est pas le parquet qui dit ne donnez pas l'information. Les choses se négocient, se discutent, et donc quand on dit retenir l'information, il y a quelque chose de péjoratif qui disqualifie le travail du journaliste. Donc je ne dirais pas qu'on a retenu l'information, on a attendu avant de la donner parce que les conséquences avaient été évaluées dans la discussion. Voilà. Et donc évidemment, quand c'est sorti sur le média français qu'il avait par une autre source, puisque vous savez que les équipes d'enquêteurs sont mixtes, ce sont des équipes belgo-françaises qui cherchent, donc voilà, sans doute que les sources sont différentes. Et donc, je pense que les choses se sont alors précipitées, parce que ce n'est pas à nous de juger de la pertinence ou de la non-pertinence dans ce cas-là, de sortir une information par rapport à l'enquête. Les enquêteurs ne sont pas nécessairement des branquignols, surtout s'ils sont belges. Et donc, les choses se sont Oui, je sais ce que... il y a des failles et des défauts très certainement dans le système, mais dans tous les systèmes judiciaires européens par rapport au terrorisme, il n'est pas propre à la Belgique. C'est le moment de le dire, hein, d'ailleurs.
Mais on vous écoute, vous avez raison de remettre les points sur les i.
Mais oui, voilà, parce qu'on pourrait argumenter, bien sûr, qu'il y a des failles, il y a des faiblesses, il y a des manques de moyens, mais ce sont des gens de terrain aguerris. Et donc, dans ce cas-ci, je pense que ça a précipité les choses et ça a aussi précipité une forme d'effroi et une forme d'hystérie dans la couverture médiatique à la suite de cela.
Merci,
voilà.
Françoise Barré.
Je viens d'entendre les nouvelles à la radio. Quelqu'un vient de lancer une bombe et s'en foutait de partir avec elle aussitôt. Pour le présent, la dame, c'est juste un fou de trop. Si Dieu existait, il serait en sueur, dit-il d'une voix apeurée qui me fait froid dans le dos. Suivez-moi, toi et toi là-bas, je vous promets. Suivez-moi, toi et toi là-bas, car je connais la voie. Venez vers moi.
Axel Red, une nouvelle version de sa chanson « Venez vers moi », extrait de son dernier album paru en décembre 2015. De Song, Alexandre Ify, directeur adjoint de la rédaction d'ITélé. Vous vouliez revenir sur ce que disait Françoise Barré et ce qu'on a entendu de la part de Mathieu Croissando.
Sur cette histoire entre l'OBS et l'information de Salah Abdeslam, je pense que quand même d'une manière plus générale, on peut être à la limite, mais ça pose quand même... C'est un vrai débat philosophique qui peut animer le journalisme. Savoir qui on est et à quoi on sert dans ces moments de crise. Dans le cas des attentats de Charlie, le nom des Kouachi a été retenu par tous les médias français parce que les autorités l'ont demandé, avant d'être finalement donné par une agence de presse britannique, l'agence de presse Reuters. Moi, j'en reviens toujours à quand, au moment des perquisitions, on a pu saluer à un moment l'initiative de la police belge et des Belges de mettre des chats à ce moment-là, alors que le pendant inverse est dans ma propre rédaction, et même quand ça se fait en Turquie, le blackout, on traite Erdogan de dictateur. Pareil pour, j'ai pu lire dans Télérama, l'idée peut-être qu'il fallait diffuser en différé les chaînes d'information. Typiquement, c'est ce que fait la Chine. Je redis, il y a des principes qui sont simples, qui doivent exister, et les journalistes ne sont pas forcément des agents de l'ordre public, ne sont pas... Ils essayent de travailler au mieux à un instant T. Si j'ai encore quelques secondes, j'en viens à l'histoire de Dammartin, en fait, de l'assaut à Dammartin, où en fait tous les journalistes de télévision sont relégués derrière un périmètre de sécurité. Et vous avez des journalistes qui vous racontent ce qu'ils voient de très loin et ce qu'ils entendent. Et il s'avère que tout le monde peut voir des explosions et une fumée noire sur l'entrepôt de Dammartin. Donc à ce moment-là, on estime qu'il se passe quelque chose et sans doute un assaut, mais c'est via des choses vues et entendues du journalisme dont c'est l'essence. Eh bien, le CSA et les autorités ont dit à ces chaînes qu'elles avaient mis en péril la vie d'autres otages parce qu'elles étaient à l'hypercachère et donc qu'elles avaient fauté et menaçant à la prochaine faute d'un écran noir, si je suis juste. Dans ce cas précis de Dammartin, vous avez des journalistes qui sont sur place et qui témoignent de ce qui se voit loin d'un périmètre de sécurité, vraiment très très loin. Je ne sais pas à quel point c'est une faute ce qu'ils ont fait en disant ce qu'il se passait. Et qu'à partir du moment où on dit que c'est une faute, eh bien, s'il faut faire un écran noir, faisons-le. Ayons ce débat au niveau national, au moment de... Mais il faut l'avoir, il faut assumer ce que ça voudra dire pour la presse, sa liberté et son rapport aux autorités, et donc la confiance avec les gens qui la regarde ou qui l'écoute.
Ce qu'on peut peut-être dire, c'est Guillaume Goubert, les chaînes de la Croix. En Belgique, on sait que ça ne durera pas longtemps, tandis qu'en Turquie, on sait que ce sera long.
Et ça fait quand même une différence.
Alexis Delcambre du Monde.
Ce qu'on peut également ajouter, c'est que c'est vrai qu'il est difficile à concevoir une rétention de la diffusion d'images par les télévisions ou les radios, dans la mesure où en parallèle, les réseaux sociaux, en toute hypothèse, continuent ou continueraient de diffuser, bien sûr, par l'action de tous, par l'action de la multitude des témoins, des images, des vidéos, comme on l'a vu cette semaine à Bruxelles, avec Twitter, avec Periscope, avec Instagram, etc. Donc c'est vrai que les médias restent prescripteurs, peuvent d'une certaine façon donner, indiquer l'importance d'un événement, mais il faut aussi prendre conscience qu'il y a une sphère médiatique plus large où circulent les informations et les images, et qu'elle, ben, elle est le fruit de l'action de tous, de chaque individu, et que c'est elle aussi qui indique l'importance d'un événement.
Alors les images justement et la photo, une photo dont on a beaucoup parlé, celle de la femme en veste jaune, elle a fait le tour du monde, cette photo. Elle a été prise quelques secondes après la première explosion par une photographe géorgienne, Ketevan Kardava, qui elle-même était à moins de 2 mètres de l'explosion. Vous, Guillaume Goubert, La Croix, vous êtes le seul journal, peut-être en France, qui avait choisi de ne pas la publier.
Nous n'avons pas non plus publié les photos de Dominique Strauss-Kahn sortant du commissariat de New York. On a des règles extrêmement strictes.
Ni le petit Island.
Nous avons des règles extrêmement strictes auxquelles nous restons fidèles. Moi, je suis très choqué par cette photo, la photo dont vous parliez à l'instant. Je pense que est-ce vraiment nécessaire pour faire comprendre la gravité, la dureté de ces événements que de publier des photos de ce type? Franchement, je ne le pense pas.
Alexis Delcambre, Le Monde l'a publié en page 2.
Oui, Le Monde l'a publié en page 2. Ça fait l'objet, bien sûr, d'une discussion, d'un débat. Je crois d'ailleurs que notre médiateur doit revenir sur ce sujet dans sa prochaine chronique. Voilà, je pense que sans avoir tout à fait autorité pour le qualifier, je pense que le choix qui a été fait, c'est de considérer que cette photo restituait de la façon la plus juste possible ce que nous racontait d'ailleurs notre confrère belge au début de l'émission, c'est-à-dire l'atmosphère de ce début de matinée à l'aéroport de Zaventem. Cette femme hagarde, recouverte de poussière, de sang, une image très dure. C'est une image qui, dans une certaine mesure, effectivement, touche à la dignité de cette personne. Il est vrai que le droit à l'image protège la dignité des victimes, des gens qui sont photographiés, mais il est vrai aussi que dans les situations de guerre, d'attentats, en général, on peut considérer, disons, que le droit et le devoir même d'informer peuvent partiellement prendre le pas, voilà, sous réserve que la dignité reste préservée. Bon, voilà, c'est des choses, effectivement, qui sont des débats un peu éternels entre la nécessité d'être juste dans la façon dont on décrit les choses, de bien faire comprendre ce qui s'est passé, et puis effectivement le nécessaire respect de la dignité des individus.
Alexandre Riffi,
ce qui laisse peut-être la variété peut-être des points, nous on l'avait diffusé mais flouté. Après, ça montre qu'il y a une diffusion, une non-diffusion, on diffuse flouté. En fait, je pense que toutes les rédactions s'interrogent beaucoup, parfois on oublie ça, mais à la fin on est des humains qui décidons de choses, et en notre âme et conscience, et c'est important de le dire aussi.
Guillaume Goubert, quelle hiérarchie faites-vous entre Bruxelles, le Grand Bassam récemment, Côte d'Ivoire, et ou Bamako, les attentats de Bamako?
Oui, c'est vrai que c'est une de nos préoccupations, c'est d'essayer de ne pas se soumettre de manière trop mécanique à la loi du mort-kilomètre, comme on dit dans notre horrible jargon professionnel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu des attentats extrêmement graves à Bamako, à Ouagadougou, à Grand Bassam, enfin on peut malheureusement en citer beaucoup, en Turquie, etc. Et que il me semble aussi que dans le réglage du volume d'informations que nous diffusons sur un événement, nous devons tenir compte du fait que c'est un destin partagé entre beaucoup de pays actuellement.
Isabelle Evrard-Masson, vous nous avez parlé de l'événement monstre qui accapare toute la place dans les médias. Est-ce que dans ce genre de séquence, il y a des sujets en lien avec l'actualité, mais qu'on ne peut pas traiter parce qu'ils ne sont pas audibles à ce moment-là?
Oui, c'est ce qu'il me semble. Je trouvais ça très frappant pour les deux précédents attentats français, c'est-à-dire Charlie et puis après le Bataclan. Et c'était la même chose pour l'instant. C'est par exemple, il n'est pas possible de critiquer la police, le politique, etc. au moment de la sidération. Il faut un temps pour la sidération, il faut un temps de la communion. Et les critiques n'arriveraient quand elles arrivent qu'après. Et ça, c'est quelque chose qui est frappant, que les rares personnes qui ont commencé à critiquer ont été éjectées de cette communion-sidération. Et puis, il y a, au moins, me semble-t-il, et je le guette, que je fais comme François Josse, je regarde beaucoup la télévision, je lis beaucoup la presse, je trouve qu'il y a peu d'éléments sur les causes. C'est-à-dire que on nous décrit, on nous raconte, on nous installe dans la sidération, on suit les événements, une sorte de feuilleton, de cette traque comme ça qui fait beaucoup penser d'ailleurs à la fiction. On parlait des split screens, mais on fait assez peu ou pas assez appel à cette compréhension des motivations de ces gens-là. Pourquoi ont-ils fait ? On parle de fous, on parle de sectes, mais on ne rentre pas. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il faudrait se poser la question de la cause. On parle de guerre, c'est un débat. On l'a déjà eu d'ailleurs ici, mais la guerre, elle implique des causes de guerre, elle implique un enchaînement de violence qui est je t'attaque, tu me réponds, qui a commencé et pourquoi. C'est vrai qu'au Bataclan, les terroristes ont débattu avec les présents pour essayer d'expliquer la raison pour laquelle ils faisaient ça. Nous, pour nous, c'est innommable, c'est insupportable, mais eux, ils ont des raisons, est-ce qu'il faut les entendre ? Ils ont parlé des attaques françaises sur l'Irak, sur la Syrie, sur la Libye. Ils ont parlé d'autres sujets. Est-ce que ces sujets-là, on peut les entendre au moment de la communion et de la sidération ? Je ne crois pas. Mais en même temps, moi, j'ai le sentiment parfois que ça me manque, que j'ai envie qu'on soit un peu intelligent au milieu de la douleur.
Guillaume Goubert.
Ce qui est très frappant quand on reprend les journaux des 8 derniers jours, c'est qu'en fin de semaine dernière, on avait des titres presque triomphalistes sur l'arrestation d'Abdeslam. Ensuite, il y a eu tous les titres sur assez tragique, donc sur Bruxelles. Et entre les deux, il y a eu un événement qui était en rapport avec les causes, qui était le fait qu'il y ait une réunion de l'instance de dialogue avec l'islam, dans lequel il a été question d'une réflexion sur la déradicalisation. Je crois que nous avons été le seul quotidien à faire une une sur le sujet ce jour-là, la veille des événements de Bruxelles. Et il me semble que c'est effectivement extrêmement important de se situer dans cette continuité où, à la fois, il y a des événements absolument tragiques, absolument dramatiques, dont il faut rendre compte, mais aussi raconter ce qui se passe par ailleurs, ce qui se passe en Syrie, parce que là, la cause des problèmes, de beaucoup de ces problèmes vient de cette région du monde, etc. Il faut qu'on essaie d'avoir une vision un peu large, un peu, passez-moi ce mot un peu cuisse, mais un peu holistique des événements actuels et pas être seulement focalisé sur ces tragédies successives.
Alexis Delcamp, puis le dernier mot à Françoise Barré à Bruxelles. Alexis.
Je partage entièrement ce que vient de dire notre confrère de La Croix. C'est vrai que il faut distinguer, je pense, les temporalités. C'est-à-dire que c'est vrai qu'une journée comme celle du 22 mars, peut-être du lendemain, c'est probablement difficile, effectivement, dans la temporalité où on est juste en train d'essayer de comprendre tout simplement ce qui s'est passé, de recevoir des bilans, d'essayer de comprendre le déroulé des événements. C'est probablement pas dans ce moment-là, effectivement, qu'on apporte les éléments de cause, mais c'est le job d'un média tout au long, chaque jour, effectivement, d'essayer d'éclairer sur la situation en Syrie, sur la crise migratoire, sur la situation sociale en France, en Belgique, sur l'histoire de... Il y avait un entretien extrêmement intéressant dans Le Monde cette semaine aussi sur les origines de l'immigration belge, marocaine, localisée à Molenbeek, etc., qui apportait aussi un nouvel éclairage sur ces questions. Voilà, c'est vrai que c'est notre job à tous d'essayer, par ce faisceau d'analyse et d'éclairage, de mieux faire comprendre les événements que nous traversons.
Françoise Barré de l'RTBF à Bruxelles, vous avez commencé à expliquer les causes, vous êtes restée sur ce qui vous arrive, sur les attentats de Bruxelles.
Non, les causes, on en parle depuis très longtemps, évidemment, puisqu'il y a beaucoup... d'émissions de débat, il y a d'abord les faits, il y a les événements que l'on raconte et il y a à côté des tas d'émissions où l'on parle des causes et des reportages qui vont au cœur des quartiers. On fait ça depuis très longtemps, oui, évidemment, mais le 22, il fallait parler de cette sidération et de cette violence et de ces attentats et de ce déchaînement de violence. Il fallait. Et puis... ça continue, évidemment. Il y a tellement encore de perquisitions, d'assauts et d'événements que les choses ne sont pas terminées, loin de là.
Merci Françoise Barré. Merci à tous. Avant de se quitter, le clin d'œil de Yacine Bouzard qui s'intéresse aux spécialistes auxquels la presse fait appel pour commenter et analyser l'actualité.
De retour d'un long voyage, David Vincent roule sur une route de campagne à la recherche d'une nouvelle aventure et d'un café. Trop fatigué pour poursuivre son chemin, il s'endort au volant, l'autoradio allumé. Il est bientôt réveillé par une mystérieuse voix, comme venue d'ailleurs.
On fréquente une mosquée, une école coranique ou un site internet.
Pour David Vincent, il ne fait plus aucun doute que les spécialistes existent. Les spécialistes.
Il est très difficile de connaître le nombre exact de ces personnes qui partent et qui reviennent et qui repartent et qui reviennent parce qu'en fait, il y a un va-et-vient de la part de ces gens.
Ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur mission, occuper la scène médiatique. Les spécialistes.
Les cellules dormantes, il y en a beaucoup. On en identifie de temps en temps et on démantèle sans trop nécessairement parler dans les journaux régulièrement.
Désormais, David Vincent le sait. Ils sont là, ils ont pris forme humaine, épaulés dans leur mission par une espèce en danger, les journalistes. Les spécialistes.
La fabrication de faux passeports, surtout de passeports syriens, enfin, ou de passeports qui ne sont pas des passeports européens, donc pas extrêmement sécurisés, ça peut se faire un peu n'importe où. Ça peut se faire au Moyen-Orient, ça peut se faire en Turquie, ça peut se faire dans le sud-est de l'Europe.
Les spécialistes, ils ne disent rien, mais ils le disent bien.
Le clin d'œil de l'émission avec la voix de Cyril Baer. Merci à tous. L'émission se termine. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Françoise Barré, rédactrice en chef de la cellule Société de la RTBF, Alexandre Ify, directeur adjoint de la rédaction d'ITélé, Guillaume Goubert, directeur du journal La Croix, Alexis Delcambre, journaliste média au Monde, en duplex au téléphone, François Jost, analyste des médias, notre regard extérieur qui nous a accompagnés aujourd'hui, Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS, dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard, avec aux manettes aujourd'hui Alexandre Dang. Dans un instant, le journal d'Anne Fauquemberg, suivi de répliques, la France, l'orthographe et l'école, Alain Finkielkraut reçoit Anne-Sophie Letac et Michel Lusseau. C'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal réplique. Bonne journée sur Culture.
On doit gérer le choc sur le mode qui n'est pas le choc. On doit rester extrêmement distant. Et donc, ce que moi j'ai essayé de faire, c'est de rendre compte des paroles des personnes, essayer de décrire ce que je voyais.
C'est vrai que c'est une de nos préoccupations, c'est d'essayer de ne pas se soumettre de manière trop mécanique à la loi du mort-kilomètre. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu des attentats extrêmement graves à Bamako, à Ouagadougou, à Grand Bassam, enfin, on peut malheureusement en citer beaucoup, en Turquie.
Le droit à l'image protège la dignité des victimes, des gens qui sont photographiés. Mais il est vrai aussi que dans les situations de guerre, d'attentats, on peut considérer, disons, que le droit et le devoir même d'informer peuvent partiellement prendre le pas, voilà, sous réserve que la dignité reste préservée.